France Info.
Bonsoir, la traque se poursuit donc à Strasbourg et toujours aucune trace de shérif Shekat en fuite 48 heures après son attaque meurtrière du marché de Noël. Le bilan est révisé à la hausse, une troisième personne est décédée, 13 blessés, 5 dans un état grave. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, doit prendre la parole dans la soirée depuis la préfecture du Bas-Rhin. Les informés reviennent ce soir sur le nouveau visage du terrorisme. Les forces de l'ordre sont sous pression, 720 policiers et gendarmes engagés à Strasbourg. Un cinquième acte de la mobilisation des Gilets jaunes qui se dessine ce samedi. Cela fait beaucoup. Des voix s'élèvent pour réclamer la suspension des manifestations en raison de la menace terroriste. Un appel diversement apprécié, vous le verrez. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulé à l'Assemblée nationale cet après-midi le débat sur la motion de censure de la gauche, rejetée sans surprise et votée par 70 députés. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Yannick Halimi.
Bonsoir.
Bonsoir, Yannick, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. À mes côtés également, bonsoir, Pascal Richer.
Bonsoir.
Directeur adjoint de l'Obs. Vous êtes le cofondateur de Rue 89. Invité également ce soir, Driss Aït Youssef. Bonsoir à vous. Bienvenue. Président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit, spécialiste de la sécurité globale. Et avec nous, bonsoir à vous, David Koubi.
Bonsoir.
Avocat associé au cabinet 28 octobre. Nous sommes ensemble à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT jusqu'à 21h. Il est donc toujours en fuite. Shérif Shekat a-t-il pu se cacher quelque part au Neudorf, où la police a perdu sa trace mardi soir après son parcours meurtrier? Le raid a visité plusieurs maisons de ce quartier proche du centre-ville. Cet après-midi, une perquisition a également eu lieu au même moment chez une sœur du fugitif à Paris. La nation tout entière retient son souffle. Emmanuel Macron, à son arrivée au sommet européen qui se tient à Bruxelles, a tenu à rendre hommage aux victimes.
C'est non seulement la France qui a été touchée, une ville française, nos concitoyens, mais c'est également une grande ville européenne qui a été meurtrie, touchée il y a quelques jours. Et je veux ici redire la solidarité de la nation française tout entière à l'égard des victimes et de leurs familles.
Yannick Halimi, la France qui a été touchée, mais également une grande ville européenne, nous dit le chef de l'État. C'est une façon de rappeler bien évidemment que la lutte contre le terrorisme n'a pas de frontières et c'est toujours là, c'est toujours présent. Hein.
La lutte contre le terrorisme et le terrorisme, est toujours présent. On avait eu peut-être tendance à l'oublier, en tout cas dans nos vies et nos réflexions quotidiennes, parce que Dieu merci, il n'y a pas eu de gros attentats depuis quelques mois à peine, hein, mais effectivement, voilà, ça nous rappelle à notre bon souvenir et ça nous notre mauvais souvenir plutôt, oui. Et ça nous rappelle aussi, en tout cas, les pouvoirs publics sont là pour le rappeler que la lutte contre le terrorisme est quelque chose de permanent et que malheureusement, à l'occasion de ce drame, on apprend qu'énormément, plusieurs dizaines d'attentats ont été déjoués depuis un an.
Oui, absolument. Vous faites bien de le rappeler, Yannick Halimi, Driss Aït Youssef, Shérif Shekat. Où est-il, au fond? Est-ce qu'il est passé en Allemagne? Est-ce qu'il est dans un quartier de Strasbourg? Il est recherché intensément, je dirais, ce soir.
Oui, il est recherché. Alors, on ne le sait pas, hein, mais il y a aujourd'hui des investigations, à la fois côté français et côté allemand. Le parquet allemand a également ouvert une enquête. Maintenant, il y a une investigation en cours et j'espère qu'il sera neutralisé assez rapidement. Oui.
Pascal Richer, c'est une traque qui, on l'imagine, doit peut-être mêler tous les services en France, mais il y a aussi un scénario possible de passage de ce fugitif de la frontière allemande, peut-être de l'autre côté de la frontière en Allemagne.
Oui, parce que ce fugitif connaît bien l'Allemagne, il a passé du temps, il a même passé du temps, je crois, en prison en Allemagne, puisqu'il a été condamné plusieurs fois dans ce pays. Alors je crois qu'il ne parle pas allemand, il parle mal allemand, donc c'est une difficulté pour lui s'il est en Allemagne. Maintenant, effectivement, il y a toutes les polices qui sont mobilisées, je crois qu'il y a 700 personnes qui travaillent sur la traque, en France et en Allemagne, je ne sais pas combien. Donc c'est une chasse à l'homme assez impressionnante.
David Koubi, le suspect, plus que cela, même l'auteur des coups de feu, Shérif Shekat, eh bien les forces de l'ordre l'ont raté quand il s'est agi d'aller l'interpeller au petit matin. C'était une occasion manquée qui, ensuite, s'est suivie par cette tuerie le soir même.
Ce qui est assez étonnant en termes d'opérations policières, et je dis ça sans aucune volonté de polémique, c'est qu'on le voit, nous, dans nos dossiers en droit pénal, lorsqu'une perquisition est en cours, est prévue, pardonnez-moi, ou lorsque une interpellation est prévue pour le lendemain matin, 6h du matin, assez souvent, on voit dans nos dossiers, quand on les consulte ensuite, parce qu'on représente soit une partie civile, ouais, soit l'auteur des faits, on voit que les forces de police se sont assurées la veille au soir que celui qu'elles allaient épingler le lendemain matin à 6h du matin était à son domicile. Là, manifestement, ça n'a pas été fait. Et on connaît assez bien, maintenant qu'on a une petite incise de quelques secondes, maintenant qu'on a abandonné sur les chaînes d'infos en continu diverses et variées le concept de loup solitaire, puisqu'on a compris maintenant que ce n'était plus des organisations terroristes qui étaient nécessairement dans l'attente d'un ordre qui arriverait crypté dans un réseau, sur un réseau Telegram, etc. On a compris que le procédé consistant à attaquer seul était un procédé qui se répétait, donc oui, devenu une norme. Ce qui est étonnant dans ce cadre-là, c'est de se dire que il est vraisemblablement passé à l'acte ce jour-là parce qu'il a, oui dire, parce qu'il a été au courant de la perquisition menée chez lui, qui a été infructueuse.
Driss Saïd Youssef, vous validez ce que dit à l'instant David Koubi. Et juste un détail également, plus le temps passe et plus la tâche est compliquée pour les enquêteurs, les policiers.
Non, je ne crois pas. Alors, d'abord, non, oui, absolument. D'abord, on est passé d'une menace exogène à une menace endogène. Aujourd'hui, c'est plutôt une menace intérieure avec des individus qui, pour la plupart, ne se sont pas rendus sur un théâtre d'opération terroriste extérieur. Et que, par conséquent, ceux qui se sont rendus là-bas, ils sont maintenant soit neutralisés, soit ils sont appréhendés à leur arrivée, et ils sont emprisonnés. La difficulté, c'est que ceux qui sont ici, pour ceux qui ne sont pas fichés S, et y compris pour un certain nombre qui sont fichés S et donc qui figurent au FSPRT, sont... Oui. Ce qu'on appelle sous le radar. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir, évidemment, prévenir avec des signaux faibles la commission de l'attentat. Pour cet individu, le temps ne joue pas pour lui. Aujourd'hui, il est blessé. C'est un type qui a été blessé lors d'un échange de coups de feu avec les militaires et qu'il faut considérer qu'il a besoin de soins. Et que, par ailleurs, il y a des investigations dans son entourage. Sa famille a été mise en garde à vue. Il y a des proches qui ont été mis en garde à vue et donc il ne bénéficie pas d'un grand soutien. Et le temps ne joue pas pour lui.
Allez, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
Shérif Chekat, le principal suspect de l'attaque de Strasbourg, est toujours en fuite et activement recherché. 5 de ses proches sont à présent en garde à vue. Les forces de l'ordre ont mené cet après-midi une importante opération dans le quartier du Neudorf où sa trace s'est perdue après l'attentat. Des perquisitions aussi en région parisienne, notamment chez une des sœurs du suspect. Elle a été entendue en audition libre. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est de nouveau à Strasbourg ce soir. Il doit s'exprimer d'ici une vingtaine de minutes, notamment sur la sécurisation du marché de Noël de la ville. Et une veillée œcuménique a eu lieu en fin d'après-midi en la cathédrale de Strasbourg pour rendre hommage aux victimes. Une troisième personne a succombé aujourd'hui à ses blessures. Une autre est en état de mort cérébrale. 12 sont également blessés. L'Assemblée nationale rejette de son côté la motion de censure de gauche sur la gestion de la crise des gilets jaunes par le gouvernement. Elle a été votée seulement par 70 députés. Les socialistes, les communistes et les insoumis voulaient faire entendre les cris du peuple et condamner la politique sociale et fiscale, selon eux, injuste du gouvernement. Malgré l'appel à la grève lancée par la CGT pour demain, le trafic des trains à la SNCF s'annonce quasi normal, excepté pour certains TER. Des effets qui s'annoncent aussi très limités à la RATP, à l'exception du RERB. Theresa May cherche de l'aide à Bruxelles pour tenter de faire passer l'accord de Brexit au Royaume-Uni. La première ministre britannique a reconnu qu'elle n'attendait pas de percée immédiate au sommet européen. Les 27 se disent prêts à l'aider, mais pas en rouvrant les négociations sur le traité de divorce.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, Driss Saïd Youssef l'évoquait à l'instant. Nous allons revenir sur ce profil de shérif Chekat, 29 ans, avec de multiples condamnations à son actif. Est-il un terroriste au sens que nous l'entendons depuis les récents attentats commis en France? Pour Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe, invité ce matin sur France Info, un climat est aujourd'hui propice à ce type de passage à l'acte.
Ça n'a aucune importance que quelqu'un comme lui ait reçu une instruction, un télégramme chiffré d'un commandeur des croyants lui disant « passe à l'acte ou non ». Le climat a été construit, la vision du monde a été faite. Et à partir du moment où même s'il fait un braquage, il décide d'aller tout seul, tirer dans la foule, tuer des gens et crier Allahu Akbar et autres, de toute façon, c'est comme ça que ça va être interprété. Ça motive des individus, même s'il n'y a pas un chef qui donne un ordre.
Jean-Nic Halimi, il y aurait une sorte de climat, aujourd'hui plus besoin de structure, de chef, d'injonction, les individus passent à l'acte.
Écoutez, il faudrait demander à Monsieur Kepel ce qu'il entend par climat. Donc peut-être pourrait-il expliciter. Moi, j'avoue que je ne sais pas de quel climat il parle, franchement. En revanche, il est vrai qu'on le dit depuis un certain nombre d'attentats, un certain nombre d'années. Bon, ben notamment depuis l'attentat de les attentats de Toulouse et de Montauban avec Monsieur Mira et malheureusement tous les autres. Il semble que la structure de commandement de Daesh soit différente de celle d'Al-Qaïda. Qui est extrêmement pyramidale, hiérarchique, me semble-t-il, hein, je ne suis pas une spécialiste. En tout cas, celle de Daesh semble être beaucoup plus horizontale, avec des réseaux sociaux ou des instances locales, qu'elles soient dans des mosquées, ou dans des lieux de radicalisation comme les prisons ou les mosquées, ou même comme, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, des loups solitaires qui se seraient peut-être eux-mêmes, d'ailleurs, auto-radicalisés par Internet, c'est ce qu'on dit aussi. En tout cas, ça, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, c'est un phénomène qui fait que la lutte contre le terrorisme est éparpillé
et plus complexe
et qui nécessite, pardon, des politiques en amont et des politiques anti-terroristes beaucoup plus coordonnées, beaucoup plus massives peut-être que ce qui pouvait être nécessaire il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans.
Oui, Idriss Aït Youssef, pour prolonger ce que dit Jani Kalimi, le modèle a muté aujourd'hui ?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette menace exogène devenue maintenant une menace endogène avec des individus qui n'ont pour la plupart d'entre eux pas de contact avec un commanditaire dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures et qui vont passer à l'acte à un moment assez inattendu. Il a d'ailleurs, les derniers attentats que nous avons eus, celui du mois de mai en plein Paris, l'individu, il n'a pas été prouvé, certes radicalisé, mais il n'a pas été prouvé qu'il avait des liens particuliers avec des individus en Syrie, en Irak ou en Libye. Et effectivement, j'abonde ce que dit Gilles Kepel sur le climat. On a aujourd'hui le sentiment que c'est une idéologie qui se diffuse et qui conditionne à un moment donné des individus à commettre un peu l'irréparable. Mais la plupart d'entre eux, ce qu'il faut relever aussi, c'est que UCLAT, unité de coordination pour la lutte antiterrorisme, brosse un peu le profil du terroriste type. C'est 27 ans, un jeune, échec scolaire et connu pour des faits de droit commun. L'individu correspond à peu près à ça, quoi.
Pascal Richer, sur cette notion de climat, au fond, c'est assez inquiétant, finalement, l'idée selon laquelle on n'a plus d'ennemis identifiés. Quelque part, c'est une sorte d'ennemi intérieur.
Ouais, en fait, Daesh, c'est une idée, c'est plus une organisation, c'est une idée, une idéologie, effectivement, quelque chose qui est
diffus. Sorte de concept.
Mais Al-Qaïda l'était déjà un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y avait Ben Laden, qui était le grand gourou. Mais déjà, les attentats de Madrid dans les années 2000, c'était gens qui s'étaient endoctrinés eux-mêmes sur Internet, et qui sont passés à l'acte, par exemple. Donc, effectivement, on a deux types d'attentats. On a des attentats organisés, comme ceux qu'on a connus en France, que ce soit de Charlie ou du Bataclan, et puis des loups solitaires, enfin des gens qui, tout d'un coup, décident d'être des terroristes. Et là, dans ce cas-là, c'est très, très curieux, parce que les policiers ont perquisitionné chez lui, n'ont trouvé aucun matériel religieux, mais quasiment aucun. Alors, c'est vrai que sur la photo qui a été diffusée, on voit qu'il a un petit stigmate sur le front, qui montre que c'est quelqu'un qui prie régulièrement et qui prie de façon...
Prononcée,
voilà. Mais en revanche, on ne lui connaissait pas du tout, à part quelques discours salafistes, quelques contacts via son frère ou sa belle-sœur, mais pas du tout d'activité extrêmement militante dans le domaine islamiste. Donc c'est quelqu'un qui tout d'un coup a décidé de passer du banditisme, enfin de la délinquance, disons, au terrorisme. Alors après, pourquoi ? Là, il faut rentrer un peu dans la psychologie du personnage. Probablement parce qu'effectivement, il y a une perquisition chez lui qui s'est senti un peu paumé et qui a décidé de tomber du côté glorieux du martyr. Et d'ailleurs, il a commencé à tirer sur des militaires, sur des sentinelles ou sur des policiers. Donc c'est quand même un acte presque suicidaire.
David Koubi, banditisme, radicalisation, on ne sait plus trop où est la frontière aujourd'hui.
Si, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas exactement les mêmes typologies de
avec ce type d'individus.
Délictueux, non, mais on sait que c'est intimement lié. Et si on essaie d'aller un peu plus loin dans le raisonnement, redisant à l'instant ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que je pense que le terme de loup solitaire, ainsi que vous l'employez, ou le terme de combattant devrait être proscrit de nos plateaux de télé, parce que si moi je suis de l'autre côté de la télévision et que je vous écoute parler, je trouve que loup solitaire, c'est pas mal. Je trouve que combattant de Daesh, c'est pas mal. Je trouve que mourir en martyr, si jamais je suis une âme un
peu bannir, c'est
sensible. Bah, écoutez, ça s'appelle, monsieur Akili, des terroristes. Ça s'appelle des assassins quand ils l'ont prémédité. d'opportunité, ou des meurtriers quand c'est du terrorisme d'opportunité, c'est-à-dire je le fais maintenant parce que la perquisition vient de rater chez moi. Et je crois que l'iconographie qu'on met autour de ça, sur des sujets dont on s'accorde à dire tous, sur tous les plateaux, dans tous les pays, qu'ils sont des sujets
fragiles,
présentant une fragilité, une faiblesse. C'est une faiblesse qui conduit à aller vers ce type d'acte, parce que dans ce type d'acte, on n'échoue pas. On peut échouer à trouver un travail, on peut échouer dans le fait de s'insérer socialement, on peut échouer dans le fait de changer de classe sociale. Mais finalement, le test d'entrée n'a pas l'air d'être très compliqué. On dit prenez des couteaux, prenez des voitures, prenez des camions et faites le plus
attention,
de morts possible.
Attention aux mots que nous utilisons.
Et puis même, indépendamment de la notion psychologique que peut dégager, positive que peut dégager le concept de loup solitaire.
Parce que ces mots embellissent une forme de romantisme autour.
Je sais pas, vous savez, on entend.
Allez-y,
On entend combattant dans tout l'inconscient collectif qui est le nôtre, du jeu vidéo au film américain, un combattant, c'est quelqu'un qui présente une certaine valeur. Là, la valeur de ces gens, c'est de tuer d'autres gens, ça interroge.
Pardonnez-moi. Est-ce que le loup est vraiment solitaire? Dans beaucoup d'enquêtes terroristes, on se rend compte que ne serait-ce que pour préparer certains attentats aussi low cost, comme on dit, soit-il aussi léger, et peut-être dans la fuite, je n'en sais rien. Monsieur Chérif, il a des amis, des alliés, des relais qui montrent qu'il n'est pas si solitaire que ça. Mais je voulais juste rapidement ajouter quelque chose à ce que disait Pascal Richet tout à l'heure, comme quoi il n'y avait pas de signe de radicalisation, etc. C'est pas totalement faux. Moi, je relis rapidement ce qui a été dit sur lui. C'est que ce monsieur était tout de même fréquenté une mouvance islamique locale et qu'il était fiché par la DGSI de la prison où il se trouvait dès 2015, qu'il était fiché en tant que tel, fiché S, dès 2016, mais qu'effectivement, il ne montrait aucun signe avant-coureur de passage à l'acte. Et qu'il avait déjà, en 2008, où il avait déjà été emprisonné, une affiche de Ben Laden dans sa cellule. Donc, il y a radicalisation et il y a passage à l'acte. C'est signes de passage à l'acte qu'il n'avait pas montré jusque-là.
Vous évoquez, Yannick, les fichiers S. On en parle dans un instant, juste après le rappel de l'info, 20h20 sur France Info. Avec vous, Diane Verschiet.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, doit prendre la parole ce soir. Il est à nouveau à Strasbourg, un peu plus de 48 heures après l'attaque qui a fait 3 morts, 13 autres personnes sont blessées. Chérif Chekat, l'auteur présumé des coups de feu, est toujours activement recherché. Les forces de l'ordre ainsi que le RAID ont mené cet après-midi une opération de vérification de domicile dans le quartier du Neudorf. C'est là que la trace de Chérif Chekat s'est perdue mardi soir. Une cinquième personne proche du tireur a été placée en garde à vue. Une de ses sœurs a, elle, été entendue en audition libre. Son domicile parisien a fait l'objet d'une perquisition aujourd'hui. La mobilisation des lycéens et le préfet du Bas-Rhin leur demande de cesser les rassemblements aux abords des établissements scolaires après l'attaque de mardi. Toutes les manifestations sont interdites dans l'Eurométropole de Strasbourg. Aujourd'hui encore, 188 lycées étaient perturbés dans toute la France, dont 39 bloqués. Le groupe Michelin va verser une prime exceptionnelle à ses salariés qui touchent moins de 34 000 euros bruts annuels. Une décision prise en réponse à la demande adressée par Emmanuel Macron lundi soir face à la crise des Gilets jaunes. Cette prime sera versé en janvier prochain et Édouard Philippe précise que les annonces du président de la République feront l'objet d'un projet de loi qui sera présenté lors du prochain Conseil des ministres. Carlos Ghosn reste ce soir PDG de Renault. Le conseil d'administration du constructeur automobile dit n'avoir constaté aucune anomalie sur ses revenus en France. Carlos Ghosn est incarcéré au Japon pour avoir sous-estimé sa rémunération.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Chérif Chekat, fichier S inscrit au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, forcément suivi par la DGSI. Le débat lancinant revient sur la table, c'est à chaque fois la même chose. Comment faire pour mettre ces milliers de fichiers S hors d'état de nuire? Question posée ce matin sur Europe 1 à Valérie Pécresse, la présidente des Républicains de la région Île-de-France.
Ces fiches S sont des fiches du renseignement antiterroriste. Ça ne vaut pas une enquête judiciaire. Donc il faut que le code pénal s'adapte. Il faut qu'on ait une réponse judiciaire. Il faut que la justice passe. Mais il faut qu'on puisse incriminer devant la justice des personnes qu'on sait radicalisées, qu'on sait dangereuses, avant qu'elles commettent un attentat. Je crois que les Français ne comprennent pas qu'il n'y ait pas cette peine d'intelligence avec l'ennemi, parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique qui nous a déclaré la guerre.
Alors, beaucoup de choses dans ce que dit Valérie Pécresse, Driss Aït Youssef. D'abord, ces fichiers S, on ne va pas refaire sa vie, son œuvre ce soir, mais ils sont extrêmement critiqués, montrés du doigt. Or, leur utilité, quelque part, n'est pas forcément d'incriminer d'incarcérer des individus.
Oui, généralement, j'entends des gens parler des fichiers S, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est un fichier S. Un fichier S, c'est une balise, c'est un outil de travail qui permet aux des services de renseignement de pister un individu. Par exemple, lorsque vous êtes fichier S, d'abord, il n'y a pas que des individus fichés pour islamisme, c'est aussi des ultras, c'est aussi des espions. Et une fois que vous passez, par exemple, la frontière, vous passez un contrôle, on indique que vous êtes passé avec telle personne, etc. Donc ça donne une conduite à tenir pour les policiers qui vous contrôlent. En revanche, il y a l'autre fichier, celui que vous avez cité, le FSPRT, qui lui est un autre fichier qui permet de recenser. Il y a 18 000 personnes fichées pour, voilà. Donc sur les 18 000, vous en avez à peu près 4 000 qui posent.
Oui.
Vous en avez 4 000, 4500 qui posent un vrai problème pour l'ordre et la sécurité publique. À cela, il y a des enquêtes. Et aujourd'hui, le code pénal, dans une des dispositions, c'est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est quoi? C'est une qualification dont on dit que c'est une qualification qui vise à prévenir la commission d'un attentat. À partir du moment où, effectivement, vous êtes fiché et que vous consultez les plans d'une manifestation et que vous préparez quelque chose, vous consultez comment on fabrique une bombe, c'est suffisant pour le juge pour vous emprisonner. Donc aujourd'hui, la qualification, elle existe et globalement, elle fonctionne. Donc toute la difficulté, c'est de mettre suffisamment de policiers pour évidemment apprendre à les individus. Dernière chose, la difficulté qu'ont les services de renseignement, les services de la police judiciaire, selon qui travaillent en matière police administrative ou police judiciaire, c'est de détecter les signaux faibles des individus avant qu'ils ne passent à l'acte. Et force est de constater que celui qui a commis cet attentat, la perquisition qui a eu lieu chez lui, c'était pas pour terrorisme, c'était pour extorsion de fonds et tentative d'homicide. Rien ne laissait à penser qu'il allait commettre l'irréparable.
Pascal Richer, fort de ces précisions de Driss Aït Youssef, la tentation est toujours grande de pointer du doigt les éventuelles failles du dispositif de surveillance. Ce débat est sans fin.
Oui, il est sans fin, mais pour en venir au fichier S, le fichier S, c'est pas grand-chose. Ce sont des gens qui représentent peut-être, potentiellement,
une
menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Donc, on ne sait pas. Enfin, certains, effectivement, sont plus dangereux que d'autres, mais une grande partie, il y a un doute. On sait, voilà, ils ont des contacts, ils ont des activités qui pourraient laisser penser que. Donc, ce que dit Valérie Pécresse, en gros, elle dit il faut agir avant que le crime soit commis. Là, on est dans Minority Report, vous savez, le film où, effectivement, on arrête les gens parce qu'on, avec des je sais pas si c'est des algorithmes ou des êtres supranormaux, on arrive à imaginer qu'ils vont commettre un crime. Et ça, c'est totalement contraire à l'état de droit. C'est la négation de l'état de droit.
Jeannick Halimi, c'est le problème des effectifs aujourd'hui, toujours la même chose. Il n'y a pas assez d'effectifs pour surveiller une population qui va grandissant.
Là, je parle sous le contrôle de tous les spécialistes qui s'expriment depuis 3 jours, qui ne sont peut-être pas là, mais en tout cas, je répète ce qu'ils disent, que ce soit des policiers, des gens, des renseignements, que ce soit des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, tous disent que depuis les dispositions qui ont été prises à la fin 2015 ou 2016, après la vague d'attentats, les moyens ont été renforcés, les moyens juridiques, les moyens humains, la coordination entre services, entre les différentes polices, entre les services des renseignements, et également au niveau international. Donc vraiment, les spécialistes, après moi, disent qu'effectivement, la France aujourd'hui est sur une ligne de crête, mais dans le bon sens du terme, entre la sécurité publique et la défense des libertés publiques. Et comme, malheureusement, à chaque fois qu'un drame comme ça arrive, il y a un peu de surenchère, notamment de la part de l'opposition de droite. Valérie Pécresse, qui était plutôt à l'écart de tout ça, s'y prête également. Faut bien remarquer, elle le dit elle-même, il faut peut-être changer la loi pour pénaliser certains délits. Intelligence avec les nuits, s'il n'y a pas de passage à l'acte, ne peut pas être pénalisé. Donc voilà, comme le disait Pascal, là, c'est l'aboutissement de toute action policière, c'est qu'il faut qu'il y ait un passage à l'acte pour pouvoir être pénalisé, éventuellement.
Vous êtes d'accord avec ça, David Couvi? Vous êtes l'avocat de l'étape, donc Minority Report.
L'exemple est amusant, mais c'est pas Minority Report, c'est plus simplement de la politique française, et c'est plus simplement Valérie Pécresse. voilà ce qui vient de se passer. Donc elle est arrivée en faisant croire aux gens que l'affiche S, c'était le tampon sur le front de « je suis un vilain terroriste ». Elle oublie de dire que les fichiers S vont de il y a une taxinomie, une classification de S1 à S16 de mémoire, et en fonction de la dangerosité des actions à prendre. Donc on ne sait pas. Les zadistes aussi sont fichés S, alors vous voyez bien, ça
allez,
ça fonctionne
les hooligans.
Pas.
Allez, voilà. On marque une pause. Il est 20h28 sur France Info, le temps de la météo, du rappel de l'info, et on se retrouve juste après pour la suite des informés. À tout à l'heure.
Pachamama, un film de Juan Antin avec France Info. Tipul Pai et Naira sont deux jeunes indiens de la cordillère des Andes.
Notre Waka protège notre village, le plus précieux de nos trésors.
Ils partent à la recherche de la Waka, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Grand Condor, aide-moi à retrouver la Waka.
Leur quête les mènera jusqu'à Cusco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Pachamama, on ira jusqu'au bout, tu seras fier de nous.
Pachamama, produit par Didier Brunner, le producteur de Kirikou, actuellement au cinéma, en partenariat avec France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Demain matin, nous allons retrouver un temps maussade et pluvieux du sud de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon, avec de la neige dans les Pyrénées à partir de 1400 mètres d'altitude. Prévoyez encore beaucoup de nuages de la Gironde au Massif central et jusque vers les frontières de l'Est, et du soleil dans un grand quart nord-ouest du pays. L'après-midi, le soleil va s'imposer dans la plupart des régions, excepté au pied des Pyrénées où vous resterez sous les nuages avec encore quelques averses, mais aussi du côté du Finistère où l'on attend une nouvelle perturbation. Côté température, les gelées seront généralisées au petit matin sur les trois quarts nord du pays. Les minimales seront comprises entre moins 6 et moins 1 degré. Les maximales resteront froides dans le nord et le nord-est, avec des valeurs évoluant de 0 à 6 degrés. Elles seront plus douces ailleurs, comptez 7 à 15 degrés entre le sud-ouest et le sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Romain Desec.
Bonsoir Jean-François. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est en ce moment à Strasbourg, réunion dédiée à la sécurisation du marché de Noël, toujours fermé 48 heures après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 3 personnes et en a blessé 13 autres. Le ministre qui doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Cet après-midi, une opération de police a eu lieu, quartier du Neudorf, là où a été aperçu pour la dernière fois Shérif Chekat, le suspect numéro. Cette opération, tout comme les nombreux points de contrôle ainsi que les éventuels témoignages, mobilise beaucoup de monde, David Di Giacomo.
Plus de 700 policiers et gendarmes sont mobilisés, des contrôles routiers sont mis en place, la frontière avec l'Allemagne est étroitement surveillée, les policiers cherchent le fugitif dans Strasbourg et aux alentours, comme le montre l'opération de cet après-midi. Et vu sa dangerosité, les unités d'élite sont à chaque fois mobilisées. Des investigations techniques sont également menées par les enquêteurs de la police judiciaire, de la DGSI. Ils travaillent sur la vidéosurveillance de Strasbourg, sur la téléphonie. Un appel à témoins est lancé depuis hier, vous le disiez. Hein, toute personne qui pense avoir des informations sur l'assaillant doit contacter le 197. Shérif Chekat est blessé à l'épaule suite à un échange de tir avec les forces de l'ordre mardi soir. On ne connaît pas la gravité de sa blessure. Et puis les enquêteurs en effet s'intéressent à sa famille. Ses parents et deux de ses frères sont en garde à vue. Ils entendent aussi plusieurs membres de son entourage. Quelques mots enfin sur son profil, celui d'un délinquant multirécidiviste âgé de 29 ans, radicalisé, qui faisait du prosélytisme lors de ses différents séjours en détention. Il faisait l'objet d'un suivi très poussé par la DGSI, mais rien n'indiquait une volonté de passage à l'acte.
Les précisions de David Di Giacomo du service police-justice de France Info. Dans ce contexte, l'acte 5 des Gilets jaunes aura-t-il lieu ? Certains le souhaitent et indiquent d'ores et déjà leur participation samedi à Paris. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux les appelle à être raisonnables et à ne pas mobiliser les forces de l'ordre. Édouard Philippe a cet après-midi détaillé les mesures annoncées par Emmanuel Macron. La motion de censure déposée contre son gouvernement a été rejetée, seuls 60 70 députés l'ont voté. L'usine Ford de Blanquefort en Gironde fermera ses portes en août prochain. Le constructeur américain rejette le projet de reprise présenté par le groupe franco-belge Punch, censé reprendre la moitié des 850 emplois. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire parle de trahison. La Ligue Europa de football, à peu près à 10 minutes de la fin, Rennes est pour l'instant qualifié. Les Bretons mènent 2-0 face à Astana. Marseille, réduit à 10, est déjà éliminé et mené 3-1 sur sa pelouse par les Chypriotes de Limassol. 20h33, la suite des informés avec Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, avec Pascal Richer, directeur adjoint de l'Obs, cofondateur de Rue 89, avec Driss Aït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit, spécialiste de sécurité globale, avec David Koubi, avocat associé au cabinet 28 octobre. Voilà pour les présentations. Alors, fallait-il, dans ce contexte de menaces terroristes et de crise avec les gilets jaunes et les débordements que l'on a connus, maintenir ce débat sur la motion de censure contre le gouvernement déposée à l'Assemblée nationale par des députés du PS, de la France insoumise et du Parti communiste? Bonsoir à vous, Simon Le Baron.
Bonsoir Jean-François.
Alors vous êtes journaliste, je le rappelle, au service politique de France Info. Simon, vous avez suivi les débats aujourd'hui à l'Assemblée. Résultat sans surprise de cette motion rejetée, c'est ça ?
Oui, elle est rejetée. Vous savez, Jean-François, vous qui connaissez la vie politique française sur le bout des doigts, évidemment que pour les motions de censure à l'Assemblée nationale, il n'y a que les députés qui approuvent le texte qui votent. Là, en l'occurrence, 70 députés se sont prononcés pour cette motion de censure présentée, donc vous l'avez dit, par les insoumis, les communistes et les socialistes. On est très loin de la majorité absolue requise pour forcer le gouvernement à démissionner, qui est de 289 voix. 70 députés, en fait, ce sont l'ensemble des députés des groupes de gauche ainsi que les élus du Rassemblement National de Marine Le Pen qui ont finalement voté contre le gouvernement, même si Marine Le Pen avait dénoncé dans un premier temps la volonté de la gauche, selon elle, de se faire de la pub sur le dos des gilets jaunes. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, s'est lui aussi prononcé pour la censure, donc pas de surprise, 70 voix seulement donc en faveur du texte présenté par la gauche.
Encore un mot, Simon, avec vous, tout ça pour ça, quoi?
Mais oui, on a vu notamment, c'est vrai qu'on savait que les groupes de gauche ne s'entendaient pas, notamment les insoumis et les socialistes. Ils ont réussi à surmonter leur division comme ils l'avaient fait en juillet au moment de l'affaire Benalla pour présenter cette motion de censure. Mais ces divisions sont vraiment apparues au grand jour au cours de ce débat. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Jeannick Halimi, qui est à vos côtés et qui était à côté de moi tout à l'heure en tribune à l'Assemblée nationale. Mais on a vu notamment Olivier Faure dénoncer le cynisme du gouvernement et de la majorité qui aurait, a dit le premier secrétaire du PS, refusé de reporter l'examen de cette motion de censure malgré l'actualité tragique et l'attentat de Strasbourg, alors qu'en fait il aurait fallu que les trois groupes de gauche demandent ensemble le report, ce qu'ils n'ont pas fait, et ce qu'a rappelé d'ailleurs le ministre de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Et au moment de cette sortie d'Olivier Faure à la tribune, on a vu Jean-Luc Mélenchon souffler, faire des gestes avec les mains et montrer vraiment clairement l'air affligé, sa désapprobation. Il ne s'est pas privé d'ailleurs, une fois que lui est monté au perchoir, de dire que ceux qui demandaient le report avaient tort et qu'il fallait continuer la vie démocratique. Donc un tacle en direct à son collègue du Parti Socialiste. Donc effectivement, l'alliance de la gauche n'est pas apparue au grand jour, c'est moins qu'on puisse dire tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Merci à vous, Simon Le Baron, du service politique de France Info. Merci pour toutes ces explications et ce récit de ce qu'on aura vécu aujourd'hui dans l'hémicycle. Eh bien, je me tourne vers vous, Jeannick Halimi, comme le demande Simon. Ce débat était utile?
Je reviendrai pas sur les picrocolines entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Simon l'a très très bien raconté. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites tout ça pour ça. Parce que c'est le jeu démocratique. Et parce que, d'abord, c'est le jeu démocratique tout simplement. Et Jean-Luc Mélenchon disait fort justement, indépendamment du résultat négatif de la motion de censure, que dans le contexte actuel, effectivement, il y a eu des critiques. Donc, sur le fait que, avec les pardonnez-moi, avec l'attentat, oui. Tout cela était sinon en tout cas dérisoire, voire déplacé. Quoi, général, oui. Jean-Luc Mélenchon disait fort bien que la démocratie n'est pas suspendue à la volonté d'un assassin. Donc voilà, ça c'est une chose et je pense que c'est une belle réponse. Mais il y a aussi un enjeu très politique derrière tout ça qui peut tout à fait s'entendre, c'est que c'est les trois partis qui sont dans l'opposition qui ont déposé cette motion de censure ont voulu aussi réinstitutionnaliser la colère des Gilets jaunes. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'il faut saluer.
Ça, c'est un aspect assez inédit. Vous êtes d'accord, vous, David Koubi? Je vous vois hocher au pinet du chef ou hocher la tête, je ne sais pas, j'en sais rien.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vous prie de m'en excuser par avance. J'ai dû beaucoup voyager en voiture ces dernières semaines pour des raisons professionnelles. Et je me suis rendu compte, et je suis un provincial d'origine, donc je retourne souvent dans ma région d'origine, de naissance, et je me suis rendu compte du degré de colère qui anime nos concitoyens à l'endroit de leurs salariés. Les salariés, c'est les gens qu'on voit sur les écrans, les députés sont les salariés de nos concitoyens. L'exécutif, le président de la République.
Ah, vous désignez les parlementaires par cette terminologie, vous dites les salariés.
Oui, bah oui, ce sont nos salariés, ce sont les salariés
élus, pour la plupart, élus par la volonté populaire.
Ils sont élus, ils sont les salariés de nos concitoyens. Et j'imagine.
Ils sont élus d'abord.
Oui, vous l'avez dit, et ça ne rend pas ça plus vrai, mais bon. Moi je dis qu'ils sont salariés, puisqu'ils sont payés sur des deniers publics, et j'imagine les conséquences sub-zéro d'une motion de censure déposée. Débattu aujourd'hui sur les ronds-points que j'ai eu l'occasion de visiter, où je me suis arrêté pour en parler un peu. On sait que entre 1958 et 2018, il y a eu 58 motions de censure spontanées, donc celles déposées à l'initiative des députés, et qu'une seule a prospéré en 1962. Si la réponse de nos amis députés, donc des représentants élus du peuple, à la grogne populaire actuelle, c'est une motion de censure, ça me semble un peu court.
Non, ce n'est pas l'unique. Il faut reconnaître que ce n'est pas l'unique réponse, Maître Koubi, je vous rassure.
Pascal Richet, est-ce que vous pourriez arbitrer ce débat?
Je ne suis pas inquiet, je suis enthousiaste. Moi, je me rangerais plutôt dans le camp de Yannick, hein, je suis désolé.
Non, Maître Koubi.
Moi, je pense que quand il y a un attentat terroriste, il faut conserver tout ce qu'on fait, c'est-à-dire continuer à faire tout ce qu'on fait.
Ce qu'a dit Edouard Philippe, hein, vous faites.
C'est ce qu'il a dit, et ce qu'a dit effectivement Mélenchon, mais c'est valable pour la vie démocratique, comme pour les terrasses de café, comme pour la foire de Strasbourg. Il faut continuer à vivre notre vie, parce que quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Dès qu'il y a un attentat, il faudrait qu'on retarde des procédures démocratiques, il faudrait qu'on arrête des matchs de foot, il faudrait qu'on ferme des foires.
Pardonnez-moi, vous avez bien compris que ce n'était pas mon point, hein.
Bah oui, mais enfin là je me
rangeais parlais des gilets jaunes, pas des attentats.
Allez, je vous propose de marquer une pause pour écouter le rappel de l'info avec Diane Ferchit. On reprend ce débat juste après, 20h40 sur France Info. À vous Diane.
Et la traque se poursuit pour tenter de retrouver Chérif Chekat, le principal suspect après l'attentat de Strasbourg. Une vaste opération des forces de l'ordre et du raid a été menée cet après-midi dans le quartier du Neudorf. Plusieurs maisons ont été fouillées, des perquisitions aussi en région parisienne. Deux sœurs de Chérif Chekat ont notamment été entendues en audition libre. Ce soir, 5 de ses proches sont en garde à vue. L'attaque a fait aujourd'hui une 3e victime. Une 4e personne est en état de mort cérébrale. Il y a aussi 12 blessés. Le ministre de l'Intérieur est lui à nouveau à Strasbourg, Christophe Castaner, doit s'exprimer notamment sur la sécurisation du marché de Noël. La mobilisation des Gilets jaunes est pour Gabriel Attal, le secrétaire d'État à l'éducation nationale. Il faut faire acte de responsabilité avant de penser à l'acte 5. Les Gilets jaunes qui poursuivent leurs actions. La nuit dernière, près de 200 camions ont notamment été bloqués en Saône-et-Loire. Les forces de l'ordre ont procédé à 11 interpellations. L'université Lyon 2 restera fermée demain après des actes de vandalisme. Selon la direction, les conditions ne permettent plus d'assurer la sécurité sur les deux campus. Lors d'un blocage aujourd'hui, des bonbonnes de gaz ont été volées, des accès secours bloqués. Les personnes qui étaient présentes dans les locaux ont été empêchées de sortir. La justice donne 48 heures à la commune de Béziers pour retirer la crèche de Noël installée dans la cour d'honneur de la mairie. Elle risque 2000 euros d'astreinte par jour de retard. Cela fait 3 ans que le maire Robert Ménard persiste à installer une crèche à l'hôtel de ville malgré les condamnations de la justice.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors je résume un petit peu les points de vue parce que c'est intéressant. Pour Yannick Halimi et pour Pascal Richer, les élus devaient poursuivre, mener à bien ce débat sur la motion de censure parce que la vie continue en dépit de la menace terroriste. Pour
surtout la vie démocratique.
La vie démocratique, absolument. Pour David Koubi, eh bien, cette réponse des salariés élus de la République n'est pas à la hauteur, si j'ai bien compris ce que vos arguments, des attentes des personnes qui manifestent depuis de longues semaines, de trop longues semaines même, sur les ronds-points de France et de Navarre. Et vous, Driss Aït Youssef, quel regard vous portez sur ce débat qui s'est déroulé aujourd'hui à l'Assemblée nationale?
En fait, je vais être un peu provocateur et dans le prolongement de ce que vous avez dit, tout ça pour ça, moi je vais dire tout ça pourquoi. Je m'explique, il y a un mouvement, c'est celui des Gilets jaunes, qui a en partie sa légitimité. J'ai bien en partie. Parce qu'on a un certain nombre de revendications dont on pourrait satisfaire, évidemment, comme la démission du président de la République, la suppression d'un certain nombre d'institutions, le plafonnement d'un certain nombre de salaires, etc., 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 qui sont d'ailleurs anticonstitutionnelles. Donc moi, je veux bien, à un moment donné, qu'on évoque une motion de censure au Parlement, mais une motion de censure, pourquoi? Alors j'entends, évidemment, la nécessité d'institutionnaliser, à un moment donné, ce mouvement. Mais institutionnaliser un mouvement qui n'est pas organisé, dont on sait qu'on a du mal à répondre, alors même que le président de la République a fait un certain nombre de propositions allant justement dans le sens d'une amélioration de ceux qui revendiquent une vie meilleure, à juste raison, ça a du sens. Mais la motion de censure, elle ne peut pas arriver à chaque fois qu'on a un sujet de société important qu'il est, proposer une motion de censure, alors qu'on confond le mouvement des casseurs. J'ai le sentiment que dans cette affaire, on confond beaucoup de choses. Donc, il y a des élections, c'est la vie démocratique, on en parle, c'est vrai, et dans un pays démocratique comme le nôtre, il y a évidemment un Parlement qui discute, et puis après, il y a des moments où effectivement, on tranche. Et les Français, lorsqu'ils n'approuvent pas une politique, eh ben, ils se prononcent à quel moment ? Bah, pendant les élections. Je pense que c'est fait pour ça,
Élections. Je vais vous propose d'alimenter ce débat avec cet appel. Le gouvernement, par la voix de Benjamin Griveaux, mais aussi Richard Ferrand, eh bien, appelle à ne pas manifester samedi après l'attentat survenu à Strasbourg. Écoutez le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui était l'invité de France Inter ce matin.
Après ce mouvement qui a secoué notre pays dans ses profondeurs, le président de la République a mis sur la table un certain nombre de propositions. D'abord, il a pris des mesures qui vont s'appliquer à court terme. Et ensuite, l'idée, c'est que nous retrouvions le chemin du dialogue à travers le grand débat national. Donc j'ai envie de dire aux Gilets jaunes, sur la question fondatrice du mouvement qu'est le pouvoir d'achat, des réponses honnêtement massives ont été données. Et je crois véritablement qu'il faut maintenant que le mouvement s'arrête pour passer à la construction d'un nouveau modèle français.
Voilà donc Richard Ferrand qui évoque le mouvement des Gilets jaunes, et c'est Benjamin Griveaux qui a ajouté le contexte évidemment de la menace terroriste. David Koubi, que répondez-vous ?
Je réponds que si ça n'était pas si grave, ça me ferait sourire. Deux choses, on voit Benjamin Griveaux et M. Ferrand appeler à la raison des Gilets jaunes en leur disant, pour des questions de sécurité, ne manifestez pas. Mais je pense que c'est radicalement l'inverse. C'est les Gilets jaunes qui appellent l'exécutif actuel français à la raison et qui demandent à l'exécutif français, c'est-à-dire à Édouard Philippe, à Emmanuel Macron, à nos élus, de gouverner dans l'intérêt commun, ce qui n'est pas le cas de leur point de vue. Et j'ai entendu vos arguments auxquels j'ai été sensible, et donc du coup je me permets de les faire mien. Vous disiez sur la motion de censure, tous les trois, mais j'étais assez d'accord avec ça, que cette formule qui a fait mouche de Jean-Luc Mélenchon, la démocratie ne doit pas reculer à cause d'un seul homme, etc.
Mais assassin.
D'un assassin, très bien. Mais donc les Gilets jaunes peuvent dire très exactement la même chose, la liberté de manifester est constitutionnelle, donc ils peuvent manifester ce dimanche, ce samedi, ils doivent même le faire si c'est leur volonté, puisque un assassin ne doit pas empêcher... nos concitoyens de manifester. Mais quoi qu'il en soit, juste d'une phrase, si vous le permettez, Monsieur Akili, on s'est rendu compte de quoi samedi dernier? On s'est rendu compte que l'État n'était pas en capacité de protéger.
C'est un souci quand même.
Tous les sites français de manifestations en même temps. On a bien compris, on a bien entendu le maire de Saint-Étienne, on a bien vu ce qui s'est passé à Bordeaux ou à Toulouse. Alors effectivement, à Paris, on nous a vendu que ça s'était mieux passé, qu'il y avait eu moins de dégradation. En vrai,
vrai et faux en même temps.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ce point est en débat. Oui. Je voulais le trancher comme ça. Mais qu'en reste-t-il? Il en reste une chose très simple, c'est que les gens manifesteront s'ils le souhaitent.
Alors Pascal Richer, sur cet aspect des choses, est-ce que cet appel à ne pas manifester en raison de toutes les circonstances que nous avons décrites vous semble légitime, motivé, ou bien au fond on se comporte nonobstant une situation qui nous est devant nous, qui est posée là, et on fait ce qu'on a envie de faire?
Moi, je le trouve surtout maladroit. Ça viendrait de n'importe qui. Je le trouverais plutôt raisonnable de dire, oui, voilà, on a des forces de police qui sont un peu débordées, oui, on a cet attentat, il faut les remobiliser, etc. Ils sont très fatigués aussi, parce qu'ils ont quand même beaucoup travaillé ces dernières semaines. Ça viendrait de quelqu'un extérieur au gouvernement, ça ne me choquerait pas. Le fait que ça vient du pouvoir, je trouve ça un petit peu...
Pourquoi ?
Pardon ?
Pourquoi ?
Bah parce que les manifestations sont dirigées contre le pouvoir. Donc là, le pouvoir a l'air de dire, bah voilà, maintenant il y a un attentat, et donc il faut arrêter de manifester. Ça me semble, c'est un petit peu indécent, je trouve.
Oui, Jannick Halimi et puis Idriss Aïtoussef, oui, en même temps, allez-y.
Rapidement, oui et non, parce que d'abord, il n'y a pas que le gouvernement qui appelle à l'apaisement. Mmh. Il y a pratiquement tous les partis politiques, sauf la France Insoumise, qui n'appelle pas à la rébellion, mais qui dit que le 5e acte, samedi prochain...
Mais moi, je parle de la
manifestation. Oui, mais qui appelle à manifester. Donc mettons la France Insoumise de côté. La plupart des partis politiques, qui soient de l'opposition ou de la majorité, appellent à l'apaisement.
Mais moi, quand c'est Laurent Berger qui le fait, ça me pose aucun problème.
Non, mais je complète et je trouve totalement naturel et légitime que des membres du gouvernement le fassent. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, ils ne disent pas interdiction de manifester. Ils disent, on vous conseille de ne pas le faire. Et comme vous le disiez vous-même, Maître Koubi, les Gilets jaunes sont tout à fait libres de le faire. Mais se pose aujourd'hui et samedi la question qui est celle de l'ordre public, de la sécurité des biens et des personnes. Mmh. Et donc, à ce titre-là, peut-être pour des raisons de manque de moyens, de forces de police et militaires, on ne va pas revenir sur ce débat-là.
Vous savez quoi,
le gouvernement est à sa place pour dire qu'effectivement, il risque de ne pas avoir assez de force pour encadrer la manifestation et au cas où de nouveaux événements dramatiques arriveraient. Et là, le gouvernement, ainsi que d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, sont dans leur rôle.
Idriss Saïd Youssef, répondez à Jannick Halimi, et complétez peut-être sa réflexion. Est-ce que nous sommes en mesure, le gouvernement, pardon, est en mesure d'assurer l'ordre public ce samedi, au vu de ce qui s'est produit la semaine dernière et dans le contexte que nous savons par rapport à ce qui s'est passé à Strasbourg?
Moi, je partage complètement ces propos sur deux points. D'abord sur la sécurité et ensuite sur la politique. Sur la sécurité d'abord. Je pense qu'on a tort quelquefois de dire que c'est une manifestation. Ce sont plusieurs manifestations, voire on parle de 1500 points de fixation. Donc c'est autant de points qu'il faut sécuriser. La manifestation, elle jouit d'une protection constitutionnelle à la condition qu'elle soit déclarée et qu'elle ait une autorisation. C'est pour ça que les policiers sont là et ils protègent les manifestants. Il y a eu un mort, je crois que c'était ce matin ou hier, un gilet jaune qui a voulu faire un barrage et qui a été percuté par un camion. C'est à ça que servent les policiers et les gendarmes, à protéger. Ça, c'est sur le point, c'est qu'on n'est pas en capacité d'assurer, d'autant plus que dans ces manifestations, s'y greffent un certain nombre de casseurs qui viennent pour casser, pour piller et pour brûler des véhicules. Donc, si on n'est pas en capacité, on assure. Par ailleurs, sur le plan politique, je vais être très court là-dessus parce que c'est important, je suis d'accord avec le président de l'Assemblée nationale lorsqu'il dit... Il y a des manifestations, mais à un moment donné, il faut construire. Parce que si on n'arrête pas de manifester, on ne construit plus. Donc il faut laisser la place au débat, parce qu'au fond, ce que veulent les Gilets jaunes, les authentiques, c'est qu'on améliore leur quotidien. Et on améliore leur quotidien en construisant des propositions.
Allez, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Diane Ferchit.
3 morts, 13 blessés, dont 5 graves. C'est le dernier bilan de cette attaque à Strasbourg. Mardi soir, 5 personnes de l'entourage de Chérif Chekat sont à présent en garde à vue. Chérif Chekat est le principal suspect de l'attaque de Strasbourg, survenu mardi. Il est toujours en fuite, activement recherché par les forces de l'ordre. Elles ont mené cet après-midi une importante opération dans le quartier du Neudorf, où sa trace s'est perdue après l'attentat. Des perquisitions ont également été menées en région parisienne, notamment chez une des sœurs du suspect. Plusieurs personnes ont été entendues en audition libre. Sans surprise, la motion de censure de la gauche est rejetée à l'Assemblée nationale, seulement votée par 70 députés. Motion de censure qui portait sur la gestion de la crise des Gilets jaunes par le gouvernement. Et le Premier ministre apporte des précisions aux propositions faites lundi soir par Emmanuel Macron. Ainsi, la hausse de 100 euros du SMIC s'ajoutera finalement aux baisses des charges sociales de 2018. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, accuse Ford de trahison et l'appelle à revoir sa décision. Le groupe américain écarte l'offre de reprise pour son usine de Blanquefort, offre du belge Punch Powerglide. Ford a en outre déposé un plan social complet pour l'arrêt de la production du site prévu fin août 2019. Pour des raisons de sécurité, 5 matchs de la 18e journée de Ligue 1 de football prévus initialement ce week-end sont reportés. Parmi ces rencontres, Caen-Toulouse est reprogrammé à mardi prochain 19h30. Le match Nice-Saint-Etienne aura lieu dimanche à 17h au lieu de vendredi, avec interdiction de déplacement pour les supporters stéphanois. Par ailleurs, le match Dijon-PSG annulé le week-end dernier est lui reporté sine die. We'll be right back.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, je vous rappelle que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui se trouve à Strasbourg, qui participe ou a participé à une réunion sur la sécurisation du marché de Noël, est censé donner dans les minutes ou dans l'heure qui vient une conférence de presse depuis la préfecture du Bas-Rhin. Si tel est le cas, évidemment, nous écouterons le ministre de l'Intérieur. Alors, nous revenons à notre débat. Hein. Il faut-il manifester? Eh bien oui, mais pas à Paris. C'est ce qu'a dit Nicolas Dupont Aignan, président de Debout la France, était chez nos amis de LCI ce matin.
On ne va pas samedi interdire la liberté d'expression dans notre pays parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité face à des djihadistes. En revanche, j'ai toujours dit aux Gilets jaunes, et je l'ai dit même avant l'attentat, évitez les manifestations à Paris, restez dans vos mobilisations de province, calmes, pacifiques.
Alors, manifester non pas à Paris, mais en région, si je puis me permettre ce petit rectificatif. Yannick Halimi, le problème, c'est que, eh bien, les manifestations en région, je crois que c'est David Koubi qui le rappelait tout à l'heure aussi, eh bien, font l'objet, elles ne sont ni calmes ni pacifiques, elles font elles aussi, malheureusement, en marge des manifestations de mobilisation des Gilets jaunes, l'objet de, eh bien, de débordements.
Oui, effectivement, elles ont fait l'objet...
C'est un peu insoluble, hein, tout ça. Hein.
La démocratie peut apporter des solutions aussi bancales soient-elles, comme disait tout ce que vous connaissez, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Donc, on peut estimer tout de même que la France, les Gilets jaunes et tous les autres sortiront par le haut, par les gestes qui ont déjà été faits de 10 milliards d'euros au minimum par le gouvernement, par la prise en compte de certaines mesures proposées par l'opposition, par la grande concertation territoriale, régionale, locale qui va être engagée. Voilà, je crois que personne, même pas les Gilets jaunes, n'a intérêt au chaos.
Alors justement, Pascal Richer, on a la sensation, pour rebondir sur ce que dit Yannick Halimi, que l'annonce qui a été faite, à savoir que les propositions présidentielles vont être soumises au Conseil des ministres dès mercredi, ça passe au Parlement de façon accélérée, ça passe complètement sous le radar. On a l'impression que ça n'existe pas.
Vous voulez dire dans les médias ou
Oui, enfin dans le débat public.
Oui, enfin, je sais pas, le calendrier des annonces...
Est-ce à dire qu'elles seraient perçues comme insuffisantes de la part des personnes qui sont concernées?
De la part des Gilets jaunes, ça c'est sûr. De la part de la gauche aussi. Alors, je pense que ça porte plus sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est-à-dire des mesures qui finalement ne remettent pas en cause, ne représentent pas un virage à gauche, parce qu'en fait, il a accéléré des mesures qui étaient prévues, mais il n'a pas fait ce virage à gauche dans lequel il prendrait de l'argent aux plus fortunés pour alléger le fardeau des plus modestes. Ouais. Ça, c'est une voie dans laquelle il n'est pas allé. Il n'a pas augmenté le SMIC et d'un autre côté, il n'a pas supprimé ou rétabli l'ISF, par exemple. Donc ça, la gauche, effectivement, de ce point de vue-là, pense que c'est insuffisant. Et les Gilets jaunes, alors le problème des Gilets jaunes, c'est qu'on dit les Gilets jaunes, on ne sait pas qui ils sont et quelles sont vraiment leurs revendications. Il n'y a pas vraiment
Ce sont des Français.
David Koubi. Ce sont des Français, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de demande, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en plus par rapport à ce qui a été annoncé.
Ce sont des Français, vous dites, David Koubi.
Ben oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le sujet. C'est qu'il y a une cause, légitime ou pas, les Gilets jaunes. Il y a un fait divers qui vient s'y adosser, les casseurs. Et donc les médias parlent indirectement de la cause en évoquant la casse. Et c'est la première fois que j'entends sur les plateaux certains de vos confrères dire à des politiques « Mais vous proposez quoi concrètement ?» D'habitude, quand vous recevez des politiques, et ce n'est pas une critique, c'est un état de fait, vous les laissez le plus souvent dérouler ce qu'ils ont à dire, vous apportez une contradiction qui est saine, hein, qui est dans le débat démocratique, mais on ne sait pas très bien pourquoi ils sont là. Et là, on entend beaucoup les députés qui sont de service sur les chaînes d'info, En Marche, venir dire oui, mais il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de chef. Alors c'est vrai, c'est embêtant, il n'y a personne à promouvoir. Mmh. Il n'y a personne dans ce mouvement à qui offrir un poste. Il y a des Français qui mettent leur gilet jaune, comme on le voit à votre image. Peut-être un samedi oui, peut-être l'autre samedi non, peut-être que ça sera vous.
Vous connaissez, c'est difficile à appréhender finalement. Hein.
Mais non, je trouve pas, au contraire, je trouve que c'est une contestation qui est massive et qui raconte une chose. Moi j'ai entendu une dame dire, je sais bien qu'on ne fonde pas une théorie sur un exemple, mais dire, avant j'étais serré le 25 du mois, maintenant c'est le 15. Mais ça, bah, c'est légitime. Les gens qui nous gouvernent devraient entendre ça parce que je crois qu'ils ne vont pas y arriver à défaut.
Mais il y en a d'autres qui demandent la destitution et la démission d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense, chère Madame Halimi, que c'est à l'image de notre pays qui est la France et qu'on peut entendre tout à la fois des choses ultra intelligentes et des choses qui sont un peu débilisantes. Et je ne vois pas pourquoi on attendrait des Gilets jaunes qu'ils aient une ligne qui soit plus intelligente que la ligne des partis.
On attend rien, on les entend.
Driss Aït Youssef, est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle l'acte 5 de la mobilisation semble inéluctable aujourd'hui?
Oui, alors on verra comment les choses évolueront dans les prochaines heures, mais je vais être assez... je vais être assez trivial. Je peux entendre effectivement qu'il y a des gilets jaunes, des authentiques, ceux qui souhaitent qu'on améliore leur quotidien. Et je pense que c'est bien qu'on le fasse. Et c'est de cela que la France, à un moment donné, la population française, dans sa majorité, va accompagner. Puis il y a ceux qui appellent à manifester malgré le fait qu'il y ait des casseurs et en connaissance de cause qu'il y ait des casseurs qui viennent casser et piller et qui viennent mettre au chômage technique des gens qui sont censés défendre.
C'est pour ça que les médias en parlent.
Le débat,
sans autorisation.
Allez, Yannick Halimi, la une du Parisien demain, aujourd'hui en France.
Alors, on raconte dans le détail avec des informations inédites ce qui s'est passé ces derniers jours et comment le gouvernement, dans les coulisses du gouvernement, et comment le gouvernement et l'Élysée ont lâché.
Allez, la une avec vous, Pascal Richer de l'Obs.
Alors, on revient évidemment sur les gilets jaunes et les pistes pour en sortir, mais on consacre notre dossier aux aliments ultra transformés, avec les dernières recherches sur cette question, qui sont des aliments qui sont très mauvais pour notre santé.
À lire donc dans l'Obs cette semaine, 20h58, c'est la fin de France Info. Merci tous les quatre d'avoir été les invités de notre émission ce soir, les informés de France Info. Et je vous dis pour ma part, à demain pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.